RCF.
Depuis le début de cette semaine, nous évoquons la réconciliation comme une conversion pour se retrouver, pour retrouver ses frères, pour retrouver la création. Eh bien, c'est aussi la réconciliation avec Dieu, le carême. Et c'est avec vous, frère Éric Bidot, bonjour.
Bonjour.
C'est avec vous que nous allons parler de la création et de la réconciliation avec Dieu. Vous êtes l'auteur de La création retrouvée, l'écologie selon Saint François aux éditions de l'Emmanuel. Si on parle de Saint François, on parle des interminables temps de prière, mais aussi des larmes qui lui venaient dès qu'il méditait sur l'amour de Dieu, sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Comment est-ce que Saint François parle à Dieu ?
Il a une prière qui est marquée d'abord par l'écriture. François, comme tous les hommes du Moyen-Âge, ont une mémoire d'éléphant, on pourrait dire une mémoire phénoménale, qui est que dans la liturgie, donc la messe, les offices, la parole de Dieu est lue et elle vient habiter la mémoire. Et comme disait Origène, dans la Bible, Dieu nous parle et il nous donne les mots pour lui parler. Et ça, on en a la preuve parce que François va composer des psaumes de la Passion à la fin de sa vie, où en fait, il va reprendre des bouts de versets de psaumes et reconstituer une méditation de la Passion de Jésus, sachant que Jésus a prié les psaumes. C'était quand on veut connaître la prière de Jésus, on prie les psaumes, il les a priés comme nous les prions, nous, encore aujourd'hui. Et il a reconstitué des psaumes pour signifier un peu les sentiments du cœur de Jésus dans sa passion. Eh bien, la prière de François, elle est d'abord très marquée par cette mémoire, et elle est marquée aussi par une affection parce qu'il y a des larmes, comme vous l'avez souligné. Et il y a une prière très affective, c'est-à-dire que tout l'être, le corps, l'esprit, tout l'être est engagé à chercher Dieu et à se laisser enseigner par lui dans des temps de silence, dans des temps parmi les bois, parmi la création, où la création aussi enseigne François à remercier le Créateur et à développer comme une attitude de reconnaissance.
C'est une forme d'élan, en fait.
Exactement. C'est un élan.
Un chant de gratitude.
Tout à fait, comme un chant de remerciement qui n'en finit pas, et qui passe toujours par un lien à Jésus qui s'est fait chair, qui est le Fils de Dieu et qui est le visage du Père.
Alors justement, je vous propose d'écouter une de ses louanges, ça s'appelle « Louange de Dieu ». C'est un poème qu'il a lui-même écrit.
Oui.
Comment on a retrouvé ce texte ?
Alors, je ne saurais pas vous dire comment on l'a retrouvé. En tout cas, il est authentifié comme étant de Saint François. On en a même d'ailleurs un billet autographe. Donc ça se trouve à Assise, là où est son corps. Il y a ce billet-là avec la bénédiction à frère Léon. C'est un texte que François écrit pour soulager un peu les inquiétudes, les scrupules d'un de ses frères qui s'appelait Léon. Et Léon va garder ce parchemin, on pourrait dire, sur lui, un peu comme un porte-bonheur, on pourrait dire. Donc la transmission a dû venir par lui. Et c'est une prière qui est aussi marquée, on fait le lien avec cette manière musulmane d'égrener les noms de Dieu. Vous savez, les 99 noms de Dieu, dans l'équivalent d'un chapelet avec ses 33 billes, eh bien, comme François avait été en 1218-1219 en Orient, et notamment à Damiette, donc en Égypte actuelle, on pense que François a entendu un peu cette sorte de litanie des noms de Dieu, et que revenant, il va se dire, mais comme il est bon de pouvoir trouver ces qualificatifs, et qui finalement n'en finissent jamais de louer Dieu qui est le tout autre.
Alors, Louange de Dieu, donc un texte qui a presque 800 ans, et il est lu par le comédien Frédéric Folcher.
Tu es saint, Seigneur, seul Dieu qui fait des merveilles. Tu es fort, tu es grand, tu es très haut, tu es tout puissant, toi, Père Saint, roi du ciel et de la terre. Tu es trois et un, Seigneur, Dieu des dieux. Tu es le bien, tout bien, le souverain bien. Seigneur Dieu vivant et vrai, Tu es amour, charité. Tu es sagesse. Tu es humilité. Tu es patience. Tu es beauté. Tu es sécurité. Tu es quiétude. Tu es joie et allégresse. Tu es notre espérance. Tu es justice et tempérance. Tu es tout. Notre richesse à suffisance. Tu es beauté. Tu es mansuétude. Tu es protecteur. Tu es gardien et défenseur. Tu es force. Tu es refuge. Tu es notre espérance. Tu es notre foi. Tu es notre charité. Tu es toute notre douceur. Tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur, Dieu tout-puissant, miséricordieux, sauveur.
Frère Éric Bidot, c'est pour ce Dieu-là que vous avez donné votre vie ?
Oui, et on pourrait continuer la litanie. Hein. C'est une invitation à ce que chacun puisse écrire aussi cette prière avec ses attributs, on pourrait dire, de Dieu. Moi, ce qui me touche beaucoup, c'est cette dimension de la beauté. C'est rare hein, qu'on dise, alors on va le savoir dans l'art, effectivement, mais c'est rare qu'on puisse dire dans notre prière à Dieu, tu es beauté. Tu es beauté, c'est-à-dire tu es resplendissement, finalement. Tu es resplendissant et comme j'ai été créé à ton image, eh ben, tu m'as rendu beau et tu me fais participer à ta propre beauté. Ça, c'est vraiment la dignité humaine. Il y a aussi le tu es douceur. Tu es douceur, donc là, il y a des réminiscences aussi des psaumes, par exemple. Hein, lent à la colère et plein d'amour. Tu es joie aussi. Tu es joie. Je trouve qu'il y a dans cette prière, il y a vraiment une fraîcheur, en fait. Il y a vraiment une fraîcheur. Dieu est comme au bout de nos doigts, presque. Non pas pour le saisir, mais un peu comme dans le Cantique des Cantiques, où il nous attire à lui, sans jamais qu'on puisse le saisir, mais toujours dans cette joie d'une rencontre qui n'est jamais finie, finalement. Et c'est probablement ce qui me touche le plus, finalement, dans cette prière.
J'ai le sentiment qu'on n'oserait plus peut-être parler comme ça à Dieu aujourd'hui.
Je ne sais pas.
Il y a une proximité qui est assez étonnante, je trouve.
Oui, alors peut-être que c'est lié, l'écrivain Christian Bobin a fait ce livre, Le Très-Bas. Et je pense que justement, ce qui touche François dans sa relation à Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, d'abord ce sont des personnes avec lesquelles il est en relation, ce n'est pas un Dieu grand horloger abstrait, c'est la relation au Père, la relation au Fils, la relation à l'Esprit Saint, qui est à la fois le tout autre, mais aussi le très bas, c'est-à-dire celui qui ne veut plus faire peur d'une certaine manière, qui ne veut pas faire peur, et qui sait agenouiller devant sa créature pour lui dire tout l'amour qu'il lui porte. Et c'est pas pour rien qu'au moment de mourir, François va se faire relire le récit du lavement des pieds, comme étant le testament, non seulement que lui veut laisser à ses frères, mais qui est le testament de Jésus. Dieu s'est mis à genoux devant sa créature comme pour lui dire « N'aie pas peur, c'est moi, je suis l'amour en personne, et c'est moi qui t'invite à venir à ma rencontre, alors n'aie pas peur. »
Mais cette proximité, elle est liée aussi forcément à l'incarnation de Dieu en Christ.
Tout à fait, puisque pour François, alors ça c'est un courant qui est plus large que François. Déjà, un Saint Bernard de Clairvaux, les cisterciens, avaient mis beaucoup d'importance sur cette dimension de l'incarnation, justement, de la venue du Fils de Dieu. C'est là aussi où on voit à travers toute l'histoire de la spiritualité, on pourrait dire que le premier millénaire, il a surtout voulu souligner la gloire de Dieu, sa royauté, d'ailleurs les crucifix. On a ça en Catalogne, par exemple, jusqu'au XIe siècle, qu'on présente à la fois le crucifié, mais il est en tenue royale, il peut avoir une couronne, il est très droit sur la croix. Et puis à partir du XIe, XIIe siècle, on va se dire, mais ce roi de gloire, c'est quand même celui aussi qui s'est fait esclave, qui est venu souffrir aussi, qui est venu marcher avec nous. Et donc on va essayer, et ça va être, l'art va de ce fait évoluer, on va beaucoup plus retenir cette dimension. Il a souffert comme nous, il a marché comme nous, il a épousé en tout notre condition humaine, excepté le péché.
Et alors l'amour du crucifié, pour le coup, pour Saint François d'Assise, elle va avoir une résonance particulière dans sa propre chair. Les stigmates de Saint François d'Assise, 17 septembre 1224, comment il va les vivre ?
Alors, les stigmates, donc, ils viennent à la fin de la vie de Saint François.
Donc, ce sont ces marques. Hein,
Les marques de la passion qui apparaissent dans ses mains, son côté, ses pieds, et qui vont saigner pendant 2 ans. Donc, ils sont des lieux de souffrance. Dès que vous mettez le pied par terre, dès qu'on vous serre la main, c'est comme une plaie à vif. Hein. Et qui continuent de saigner, donc qui ne cicatrisent pas. En fait, la très belle signification, c'est de dire que dans sa conversion et tout au long de sa vie, François a cherché à imiter Jésus. Mais il ne l'a pas imité intellectuellement, il l'a imité dans tout ce que les évangiles nous disent de Jésus, dans sa manière de vivre, dans sa manière de parler, dans sa manière de prier. François a vraiment voulu être un imitateur complet. Alors pas un imitateur comme un humoriste d'aujourd'hui, mais un imitateur au sens qui cherche à être complètement assimilé à celui qu'il aime et qui se laisse complètement habiter par celui qu'il aime, au point que tout son être, dans son corps, dans son esprit, en est transformé. Et les stigmates, c'est comme le sceau qui vient confirmer dans sa chair que François a effectivement pris la bonne route.
Merci beaucoup, frère Éric Bidault. Nous avons relu avec vous la vie de Saint François d'Assise, en tout cas quelques-unes de ses expériences. On peut les retrouver dans le livre « La création, retrouver l'écologie » selon Saint François aux éditions de l'Emmanuel. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.